turning now to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 4. 1 Thessalonians, chapter 4, and verse 1.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et au verset 1. Au reste, frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que, comme vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu, vous le fassiez toujours plus. Et c'est là notre sujet, marcher pour plaire à Dieu. Et nous en arrivons au premier verset du chapitre 4 d'1 Thessaloniciens dans notre étude de ce livre. L'église de Thessalonique a à peu près un an. Elle a été fondée en 51 après Jésus-Christ par l'apôtre Paul qui est accompagné de Silas et de Timothée. C'était une jeune église. L'apôtre Paul avait continué son chemin et à présent il leur écrit à peu près un an après l'avoir fondée et il écrit de Corinthe. Et nous avons considéré ces grands chapitres. Et le chapitre 4 commence avec ce terme « au reste, frère » ou « de plus, frère ». Et ce chapitre continue le thème du chapitre 3 dans beaucoup d'aspects. Au verset 10 du chapitre 3, nous le prions avec une ardeur excessive jour et nuit que nous puissions voir votre visage et combler les lacunes de votre foi. Et c'est là l'idée de ces choses qu'ils ont besoin de savoir, ces choses qui doivent être soulignées. Et ceci est là, derrière ce terme, au reste, frère, ou de plus, frère. L'apôtre Paul va exhorter les frères concernant ces choses qu'ils doivent apprendre. Ces frères de Thessalonique, ces chrétiens dans cette église. Le premier point ce matin, j'aurai 3 ou 4 points dans le peu de temps que nous avons. Le premier point, c'est l'apôtre Paul qui souligne ce progrès constant. Nous avons vu ceci dans le chapitre précédent, que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour les uns envers les autres, cette idée de progresser. Et ceci est encore souligné et souligné encore plus au chapitre 4. Au reste, frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que comme vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu, vous le fassiez toujours plus. Il faut progresser et vous devez avancer. C'est là notre premier point, ce progrès constant. Et si souvent nous oublions ceci, que les gens convertis doivent constamment faire du progrès. La sanctification est toujours là à l'esprit et devant nous jour après jour. Et nous allons parler de ceci, c'est quelque chose que nous ne devrions pas oublier. Nous remarquons au début du verset « au reste, frère », ce terme « frère », ce que je vais dire par rapport à ces versets, ce que l'apôtre Paul dit ici, ce n'est pas utile pour ceux qui ne sont pas convertis. « Au reste, frère », ceci est un message pour les frères et les sœurs dans le Seigneur. C'est un message uniquement pour eux. Si nous n'avons pas trouvé le salut, si nous n'avons pas été convertis à Dieu, ceci n'est pas un message pour nous. Et en fait, ce message pourrait même nous amener dans l'erreur, parce que nous pourrions lire ces paroles et penser « Oh, c'est là le chemin vers Dieu, c'est là le chemin du salut. » Mais non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas là ce que l'apôtre Paul dit. Mais ce qu'il dit, c'est uniquement pour les chrétiens, pour les gens convertis, parce qu'il doit faire du progrès et progresser et aspirer à grandir dans la sainteté et éviter le péché à tout prix par l'aide de Dieu. Mais ce n'est pas là le chemin du salut. C'est là le message pour ceux qui ont été sauvés. Le chemin du salut, c'est de venir et nous devons tous faire cela. Et j'espère que vous avez fait cela, chers amis. Nous devons venir humblement à Dieu en reconnaissant que nous ne pouvons pas mériter le salut d'aucune manière. Et nous ne pouvons pas le mériter. Il n'y a rien que nous pouvons faire par nous-mêmes parce que nous avons une si grande dette de péché dans notre vie et nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit pour que ce péché soit ôté. Nous ne pouvons pas compenser notre péché en faisant le bien. Nous ne pouvons pas conquérir notre péché. Et nous avons besoin désespérément de la miséricorde de Dieu qui est libre, ce pardon libre, cette délivrance de Dieu. Nous avons besoin de nous confier en Christ qui est venu du ciel sur cette terre pour souffrir, pour mourir à la croix du calvaire, pour porter littéralement toute la condamnation de tous ceux qui seront pardonnés à notre place. Et nous devons nous confier en lui, nous donner à lui. Et ensuite, nous sommes pardonnés et purifiés par Dieu. Et le Saint-Esprit œuvre dans notre cœur, il nous transforme, il nous donne de nouvelles facultés. Et alors, quand nous sommes chrétiens, quand nous sommes convertis à Dieu, ce miracle de la conversion a été opéré en nous. Et alors, nous devons aspirer par son aide à maintenir cette sainteté. Mais l'œuvre de sainteté ne nous amène pas au salut. Nous devons d'abord être pardonnés entièrement et transformés et devenir enfants de Dieu. Et seulement alors, nous pouvons grandir dans la sainteté. C'est un terme important. Au reste, frères, ceci est pour les croyants qui, par amour pour Dieu, par reconnaissance, par son aide, gardent les critères de Dieu et les commandements. Et ce premier point, c'est progresser constamment. Vous êtes sauvés et à présent, vous ne pouvez pas simplement marcher de manière automatique et continuer d'une manière automatique sans y réfléchir. Chacun d'entre nous, peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, chaque jour, nous devons grandir et faire du progrès et progresser. Au reste, frères, nous vous prions donc, nous vous conjurons par le Seigneur Jésus que, comme vous avez appris de nous, l'apôtre Paul dit tout par le Seigneur Jésus. Ce n'est pas simplement Paul, le prédicateur, l'apôtre qui parle, mais il les exhorte dans le nom de Christ. De manière certaine, ils ne le feront pas parce que cela vient de Paul, mais pour Christ qui est mort pour eux, qui les a sauvés avec cette dette qu'ils ne peuvent jamais payer. Il a payé le prix pour leur donner une place au ciel. Ainsi l'apôtre Paul dit, vous lui devez tout par le Seigneur Jésus. Vous lui devez tout. Et il va utiliser certaines des paroles même de Christ pour les exhorter. L'apôtre Paul a également été inspiré par Christ et il parle par le Seigneur Jésus. C'est même ces paroles que Christ lui a données. Frères, nous vous prions et nous vous exhortons. Ils n'ont rien fait de mal. Ceci parle de progrès. Ainsi, il les exhorte. Je vous supplie, je vous exhorte que comme vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire. Quand l'apôtre Paul a fondé l'église avec Silas et Timothée qu'il a prêché au départ, il était là suffisamment longtemps pour poser ce fondement et pour leur dire comment les chrétiens doivent se conduire. Tout ici est révélé dans la parole de Dieu. Quels sont les critères pour la marche chrétienne ? Parfois, les chrétiens ne comprennent pas entièrement cela, même les gens qui sont convertis. Et ainsi, vous entendez des gens qui discutent l'un avec l'autre dans des groupes en disant « Est-ce qu'il est juste pour un chrétien de faire ceci, de faire cela ? Est-ce qu'il est juste pour un chrétien de danser ou de boire ?» Et les gens discutent. L'un dit ceci, l'autre dit cela. Et nous en arrivons à une conclusion. Et nous avons différentes opinions sur le sujet, mais ce n'est pas là le christianisme du Nouveau Testament. La démocratie est une bonne chose, et les gens qui s'expriment, c'est une bonne chose. Mais savez-vous, ceci peut aller trop loin dans la foi chrétienne, et nous pensons que même en tant que chrétiens, tout est ouvert à la discussion. Et peut-être nous pouvons avoir notre propre opinion, nos propres idées sur quelque chose, et la jeune génération va aller sur Internet de manière toute naturelle. Qu'est-ce que les autres chrétiens pensent ? Qu'est-ce que je pense ? Et alors les gens s'expriment en disant « Oh, c'est juste pour un chrétien de faire cela. Non, c'est juste, non, c'est justifié. Si vous gagnez les âmes, vous pouvez aller danser. » Et quand vous regardez l'Écriture, vous voyez qu'il n'y a pas de place pour une discussion, pour un débat. Au reste, frères, nous vous prions donc, nous vous conjurons par le Seigneur Jésus, que comme vous avez appris de nous, ceci nous est donné. Tout, si je dois faire cela, ceci ou cela. J'ai mentionné ces exemples, aller danser ou aller au cinéma toutes les semaines, porter ceci ou ce vêtement ou cet autre vêtement. Oui, tout nous est donné là, si nous connaissons la Bible, les principes bibliques, et tout nous est donné pour la conduite d'un chrétien. Ceci n'est pas ouvert à débat. Dans les choses terrestres, la vie de famille, toutes sortes de choses, nous utilisons notre tête, notre capacité de réfléchir. Mais dans les choses divines, Dieu nous a donné les règles, comment nous devons vivre et nous conduire. Il y a une grande différence entre ces deux domaines. Et nous voyons ceci dans ce verset. De quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu? Je ne peux pas lui plaire en décidant les choses par moi-même, s'il aime ceci ou cela. J'ai lu quelque chose l'autre jour qui disait « Dieu aime le rap ». Je me suis dit « ceci est intéressant, Dieu aime le rap ». Je ne vais pas vous dire qui était l'auteur. Comment est-ce qu'il sait cela? Comment est-ce qu'il pense qu'il connaît la réponse? Est-ce que Dieu lui a dit dans son oreille « j'aime le rap » Non, c'est son opinion. Est-ce qu'il a raison? Oh, nous ouvrons la Bible pour juger. Et je vais vous dire cela, si vous prenez la Bible au sérieux, Dieu n'aime pas le rap, et ceci est sûr. Mais ce n'est pas notre travail que de nous forger une opinion de ce que Dieu aime, n'aime pas, quels sont ses goûts. Ceci nous est donné dans la parole de Dieu. Écoutez cela, comme vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu, ces choses qui lui plaisent, ceci nous est donné. Et ces choses qui ne lui plaisent pas, nous apprenons ceci dans la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit ceci de manière très claire. Vous le fassiez toujours plus, chaque jour, cette examination de nous-mêmes dans notre cœur et grandir spirituellement. Et mon deuxième point, cette marche elle-même, verset 1, comme il faut vous conduire ou marcher pour plaire à Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette marche avec Dieu? Tout d'abord, les commandements de Christ, les 10 commandements, il les souligne tous, la loi morale de Dieu. Ne soyez jamais confus par la loi morale d'Exode 20 et les lois cérémonielles du livre de Moïse. Les cérémonies données aux Juifs, tous ces rituels de l'époque donnés par Moïse, qui étaient des prophéties de Christ, de son œuvre d'une certaine manière, ces lois cérémonielles sont finies après la venue de Christ, mais la loi morale qui a été donnée par la main même de Dieu est là pour tous les temps. Ceux qui ont fondé cette église, ce fondement de l'église qui a été écrit par Charles Spurgeon en 1850, c'est « nous croyons dans la loi morale de Dieu » et c'est là le cas. Cette loi morale ne peut pas nous amener au ciel parce que nous ne pouvons pas obéir à tous les critères moraux de Dieu. Nous avons besoin du salut libre, du salut de la conversion de la vie nouvelle. Mais quand nous sommes convertis, la loi morale de Dieu, nous devons la suivre de tout notre cœur. C'est la loi de Christ, c'est la loi de liberté, nous dit le Nouveau Testament. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face? Oui, jour après jour, peut-être, parfois, nous relisons les 10 commandements quand nous essayons de progresser constamment. Quand est-ce que la dernière fois, nous nous sommes examinés en relisant les 10 commandements? Est-ce que j'ai d'autres dieux, d'autres idoles dans ma vie? Est-ce que je dépends peut-être de la musique, que ce soit de la bonne ou de la mauvaise musique? Peu importe, est-ce que je dépends de la musique pour m'encourager au lieu de prier à Dieu? Oh, vous pouvez écouter de la belle musique, oui, mais d'en être dépendant, de ne pas pouvoir vivre sans musique? Oh non, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce commandement dans Exode 20 dit littéralement « devant ma face ». Il n'y a rien qui devrait prendre la place de Dieu. Rien pourquoi nous voulons vivre. Mais notre Sauveur, le Saint-Esprit, le Dieu vivant, est tout en tous. Tu ne te feras point d'image taillée, et ceci signifie, en effet, « je serai votre Dieu et mes grands attributs, mes attributs divins, spirituels, sont votre réconfort, votre consolation. Quand j'adore Dieu, je dois penser à son infinité, son immensité, je dois penser à son éternité, je dois penser à sa connaissance éternelle, à sa grande puissance, sa puissance infinie, je dois penser à sa sainteté, je dois penser à sa miséricorde, à sa bonté. » C'est là le côté positif des commandements. Ce n'est pas simplement l'interdiction des images taillées, mais c'est Dieu qui implique qu'il ne peut pas être substitué par d'autres choses ou qu'il ne peut pas être taillé en une sculpture. Ses attributs sont si immenses et vous devez toujours l'adorer pour ses grands attributs. C'est là ce que nous devons à Dieu dans ces quatre commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Élevez le nom de Dieu, dit le texte en hébreu. Ceci ne parle pas simplement d'insulter Dieu ou de jurer, mais ceci parle de prière également. Je me demande combien de personnes parmi nous faisons cette grande erreur que de venir dans la maison de Dieu ce matin en prenant le cantique et en chantant le nom de Dieu alors que notre esprit pense à quelque chose d'autre. Vous avez péché, chers amis, vous avez pris le nom de Dieu en vain, vous avez élevé le nom de Dieu sans y penser, sans sincérité, sans respect, d'une manière superficielle. Et ceci est un péché, chers amis. Et nous devons être sincères, entièrement sincères, et venez à l'heure, parce que nous devons ceci au Seigneur. Nous devons élever son nom avec beaucoup de sincérité, avec amour, avec adoration. Et gardez ceci, chers amis, tenez-vous à ceci, parce que c'est contre ces commandements que d'être superficiel. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Oh, qu'allons-nous faire après ce culte d'adoration? Est-ce que nous croyons dans ce commandement du jour du Seigneur qui a été mis en place dès le début à la création, que nous devons adorer Dieu un jour de la semaine autant que possible et autant que nos circonstances le permettent et que la loi du pays le permet, nous devons l'adorer et mettre ce temps à part, que ce soit un jour pour lui. Et notre travail, nos révisions, nos études, les achats, c'est pour un autre jour. C'est un jour pour remercier le Seigneur pour la création, pour la rédemption, pour toute sa bonté et pour proclamer Christ pour les adultes, pour les enfants, pour penser à lui, pour parler de lui, pour l'aimer, pour le servir. Un jour de repos en lui. Et c'est un commandement de Dieu. Est-ce que nous avons toutes sortes de choses personnelles planifiées le dimanche, des choses pour nous-mêmes, égoïstes, ou est-ce que nous sommes mal organisés? Ainsi, nous avons différentes choses à faire le jour du Seigneur qui sont un obstacle. Il y a ensuite ces responsabilités l'un envers l'autre. Honore ton père et ta mère, ceci n'est pas seulement littéralement par rapport à honorer les parents, mais également les parents politiques, les employeurs, les parents dans l'église, partout où il y a l'autorité. Nous devons honorer ces gens et marcher dans l'humilité. Quand nous sommes jeunes, nous pensons que nous pouvons tout réformer. Nous pensons que tous ceux qui sont plus âgés sont insensés. J'espère que non, mais il y a cette tendance qui est là dans le cœur des jeunes de mépriser les plus âgés, de penser que nos idées sont meilleures. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Dans le cas de la nation d'Israël, leur sécurité dépendait du fait d'honorer leur père et leur mère, de respecter les anciens. et de respecter les traditions et changer les choses avec beaucoup d'attention, d'humilité. Ceci parle d'humilité. Ne pensez pas que vous êtes bien meilleur que tous ceux qui étaient avant vous dans les affaires, dans cette vie nationale, dans la vie d'église. Ne pensez pas que vous êtes si intelligent que vous pouvez tout mépriser, mépriser tout ce qui a été fait avant vous. Non, c'est un commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère dans tout aspect de la vie et sois humble. Et il y a toujours la place pour des réformes, mais nous faisons ceci avec beaucoup d'attention. Sinon, c'est l'arrogance qui amène l'instabilité et le chaos. Tu ne tueras point. Dans l'Ancien Testament, Moïse explique ce commandement rapidement. Ce commandement « tu ne tueras point » parle également de tuer le bonheur de quelqu'un, comme de kidnapper quelqu'un. Il explique cela dans le Pentateuque, d'ôter par différents moyens le bonheur de quelqu'un, ou peut-être la jeune génération qui enlève le bonheur, la paix des parents. C'est comme tuer quelqu'un dans un certain sens, tu ne tueras point. C'est un commandement, si l'on regarde la vertu opposée de ce commandement, ce respect, cet amour, toutes ces vertus, est-ce qu'elles sont là en moi, formées en moi? Tu ne commettras point d'adultère. C'est l'opposé de la fidélité, de l'amour qui ne change pas. Tu ne déroberas point. Et l'opposé, c'est de donner, de soutenir la mission, d'aider, d'être bon envers les autres. Toutes ces choses qui sont là dans ces 10 commandements. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain, pas de commérage, pas de mensonge, pas d'exagération, pas de vantardise. Toutes ces formes de mensonges, mais l'opposé, c'est cette intégrité, cette sincérité, tu ne convoiteras point. À l'opposé, nous vivons de manière modeste, simplement. Nous ne nous élevons pas nous-mêmes en privant d'autres personnes de bien. C'est là cette marche devant Dieu qui est là dans les 10 commandements. Ce sont des passages merveilleux que vous voyez également dans le Nouveau Testament. Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix et tous les autres fruits. Nous pourrions prendre ces listes, peut-être le lundi, vous lisez Galates 5, 22. Est-ce que ces choses sont formées en moi? Est-ce que je grandis dans ces choses? Peut-être le mardi, vous lisez les 10 commandements et un autre jour, l'un des autres passages qui parle de ces grandes vertus, ces listes de la Bible et vous examinez vos cœurs. Et vous vous repentez de votre péché et vous vous donnez au Seigneur, vous consacrez à lui, vous le priez pour son aide. C'est là, grandir constamment. Chers amis, si un jour vous laissez les jours passer sans progresser, alors nous sommes rétrogrades et Satan nous a piégés. Nous sommes retournés en arrière et ces grandes vertus de bonté, d'amour, d'affection sont parties. C'est là cette marche avec Dieu. Ces critères sont tous là dans l'Écriture. Et au verset 3, c'est ici en effet la volonté de Dieu, l'apôtre Paul répète cela, que vous soyez sanctifiés. Qu'est-ce que signifie la sanctification? C'est la pureté, la sainteté, cette purification. Jean Calvin définit cela de manière merveilleuse par renoncer au monde, et être loin de cette pollution de la terre, cette sanctification, c'est quelque chose qui doit être là jour après jour dans notre vie, sans être taché. Chers amis, vous amenez votre voiture au garage pour être révisée, peut-être une fois par an, et vous avez toute cette liste que vous devez compléter. Mais pour nous, dans la vie chrétienne, chaque jour, cette examination, cette sanctification, et nous regardons s'il y a cette impureté dans notre cœur, cet égoïsme, cet égocentrisme, cette tromperie dans notre cœur, ce manque d'amour, ce manque de contrôle de soi, ce mauvais tempérament, cette colère, ou cette avarice. Nous avons besoin de nous éprouver nous-mêmes. Est-ce que nous grandissons? Est-ce que nous sommes plus forts jour après jour? Et notre troisième point est là au verset 3. C'est ici en effet la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez de la fornication. Que vous vous absteniez de la fornication. Chers amis, si nous voulons grandir jour après jour et progresser, et cette marche nous est donnée dans la parole de Dieu, il y a ce troisième point, abstenez-vous. Vous ne pouvez pas grandir et faire du progrès dans les choses positives, le Saint-Esprit vous aidant et vous donnant ces fruits de l'Esprit, ces vertus de l'Esprit. Vous ne pouvez pas progresser si vous ne vous abstenez pas des choses qui sont mauvaises. Ainsi, la vie chrétienne implique de s'abstenir constamment. Il y a ici un exemple. Que vous vous absteniez de la fornication. Ce n'est pas la seule chose de laquelle nous devons nous abstenir. Si nous avons un mauvais caractère et de la colère, nous prions à Dieu et nous nous abstenons. Si nous avons une tendance à mentir et que ce vieux péché est revenu, nous prions Dieu et nous nous abstenons. Il doit y avoir cette étape où nous nous abstenons. Vous ne pouvez pas simplement aller directement au positif en disant « Seigneur, donne-moi cette intégrité, cette honnêteté. » Si vous n'aspirez pas à vous abstenir entièrement de ces choses et mettez à mort ces choses, arrêtez-les avant même d'ouvrir la bouche. Haïssez le péché. Vous devez vous abstenir. La chose que l'apôtre Paul souligne ici, c'est la fornication. Et nous pensons savoir pourquoi il parle de ceci. Non pas parce qu'il pensait que ceci se passait parmi les convertis de Thessalonique, mais parce qu'ils étaient vulnérables. La plupart d'entre eux étaient des païens convertis. Et la ville de Thessalonique n'était pas loin de Corinthe dans sa réputation pour son immoralité. Les païens idolâtres accepter l'immoralité. Il y avait tant de prostitution dans la ville. Ces Grecs, pour qui le polythéisme était une religion qui a été formée par les hommes avec tant de mythes, ils ont créé cette religion qui leur permettait de faire tout ce qu'ils voulaient. Et ainsi, le polythéisme grec permettait toutes sortes d'immoralités, de fornications. Et à présent, ils doivent réfléchir d'une manière si différentes. Ils ont été convertis. L'apôtre Paul leur écrit un an après, au bon moment où peut-être le diable pourrait rentrer pour leur rappeler leur ancien péché et les tenter pour les faire retourner à leur ancienne vie. Et ainsi, nous comprenons la raison pour laquelle il souligne cela. Toute la culture de cette ville le permettait tout autour d'eux, et comme ici de nos jours, toute la musique, les chants populaires, la culture, le théâtre, le divertissement, la télévision, tout ceci est plein d'immoralité de nos jours. Ainsi, toutes ces choses sont permises et dans les écoles, partout, ceci est enseigné. Quand vous lisez les livres des athées populaires, ils disent « Oh, quel est ce Dieu chrétien qui nous empêche d'avoir notre sexualité alors que nous devrions être libres ? Tout ceci est là autour de nous. » Si nous sommes convertis, soudainement, le Saint-Esprit nous a montré combien ce péché de l'impudicité est terrible. Et le diable essaie de nous ramener à ceci. Ainsi, les Thessaloniciens allaient être tentés, et l'apôtre Paul souligne ceci comme un exemple de quelque chose pourquoi nous devons nous abstenir. Toute immoralité, toute expression de relations sexuelles au dehors du mariage est condamné comme étant horrible et détesté par Dieu et péché. De vous abstenir de la fornication. Et tous les chrétiens s'abstiennent de cela. Cela signifie de toutes choses qui vous rendent faibles, de toutes choses qui peuvent exciter vos émotions, vos sens d'une manière mauvaise, tout divertissement qui est immoral. Toutes ces choses que vous pouvez voir ou regarder qui sont immorales. Et ces choses sont dégoûtantes et terribles. Et éviter ces choses, tuer ces choses à la racine. Ceci n'a rien à faire dans nos vies. Sinon, vous offensez Dieu. et le Saint-Esprit est parti et vous êtes alors exposé à des tentations terribles et vous serez affaibli et vous allez chuter. Il y a ici ce terme que l'apôtre Paul nous dit, vous vous absteniez de la fornication. Et au verset 4, le temps passe, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Quelle expression intéressante, que chacun de vous, l'apôtre Paul parle aux hommes et aux femmes, chacun de vous, et gardez ceci à l'esprit, sache posséder son corps. J'ai parlé de ceci à présent, mais ceci est souligné. Sache posséder son corps dans la sainteté. Posséder son corps, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Certaines personnes pensent que l'apôtre Paul, qu'il s'adresse uniquement aux hommes, qu'il veut dire que vous devez posséder ou acquérir une femme. Et ces gens disent, votre corps, c'est votre femme. Ceci est possible de lire le verset ainsi. C'est possible que ce verbe en grec traduit par posséder, il peut être traduit par acquérir ou il peut être traduit par posséder. Ou ceci peut se référer à quelque chose que vous devez recevoir ou quelque chose que vous avez déjà. Nos traducteurs ont choisi la deuxième option, que chacun de vous sache posséder quelque chose que vous avez déjà. Certaines traductions modernes traduisent autrement, en disant que chacun de vous sache acquérir ou comment acquérir. Est-ce que ceci parle de posséder ou d'acquérir? Je pense que notre version a raison. Votre corps, est-ce que ceci parle de votre femme ou comme la plupart des commentateurs dans le passé disaient, et nos traducteurs impliquent ceci ici, votre corps ou votre esprit. Dans notre traduction, nous lisons votre corps, et je pense que ceci est juste, que chacun de vous sache posséder ou garder, contrôler son corps. Comment posséder, contrôler votre corps et votre esprit? Dans la sainteté et dans l'honnêteté ou l'honneur. Certaines traductions modernes écrivent comment acquérir une femme dans la sainteté, dans l'honneur, dans l'honnêteté. Ceci semble être la manière la plus moderne de voir ce verset, mais la manière ancienne est la meilleure. Et je crois que c'était là l'opinion de Jean Calvin. Chacun de vous sache posséder son corps. L'apôtre Paul utilise ce terme à d'autres endroits, dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Or, nous avons ce trésor dans des vases de terre. Ici, il parle de lui et des prédicateurs. Nous avons ce trésor dans des vases de terre. Ce trésor, l'évangile, le message de la réconciliation, dans des vases de terre, dans un corps humain si faible. Nous sommes ceux qui portons le message de l'Évangile. Ainsi, il utilise ce terme « vase de terre » pour signifier des corps ici. Et dans 2 Timothée 2, verset 21, il le fait à nouveau. « Si donc quelqu'un se conserve pur de ces choses, il sera un vase d'honneur. » L'apôtre Pierre utilise ce terme « vase » pour décrire une femme, mais l'apôtre Paul l'utilise pour décrire nos propres corps. Ainsi, je pense que nos traducteurs dans 1 Thessaloniciens 4, verset 4, ont raison. Que chacun de vous sache posséder son corps. Comment contrôler son corps, son esprit, sa pensée et son comportement physique dans la sainteté, dans la pureté, en ne laissant pas votre esprit ou votre corps être infidèle ou aller dans toutes sortes d'expériences sexuelles. Dans la sainteté et dans l'honneur qui est l'opposé de la honte. Chers amis, que chacun de vous sache, ce sont là les exhortations de l'apôtre Paul. Ce n'est pas faux, mais il est vrai que le jeune homme doit chercher une femme, il doit aimer sa femme et ne pas laisser son esprit pour un seul instant aller vers ces mensonges modernes en pensant « Oh, peut-être qu'il serait plus approprié d'aller avec un homme. Oh, ceci est méchant et terrible. Ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui soit naturel en cela. C'est une convoitise qui est complètement fausse, une mauvaise pensée. » Ainsi, ce passage est juste même dans son autre traduction, que chacun de vous sache posséder son corps, qu'il puisse acquérir une femme, un mari, et vivre dans l'amour, avec cette relation forte d'affection et d'amour, et pas égoïste, mais en soutenant l'autre en tout aspect. Que chacun de vous, hommes et femmes, sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honneur, sans vous livrer à des passions déréglées, comme les non-juifs qui ne connaissent point Dieu. Que personne n'offense, au verset 6, son frère, ni ne fasse tort à son prochain dans les affaires. Je ne vais pas parler de ce verset à présent, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, ces gens qui volent et ces gens qui commettent la fornication, l'impudicité. Le Seigneur va venger, même parmi les croyants. Les croyants sont condamnés d'une manière sérieuse et grave par le Seigneur s'ils pêchent dans ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Et au verset 7, et je vais conclure, « Dieu en effet ne nous a point appelés à la souillure, mais à la sainteté. » C'est notre appel, chers amis. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit qui est mentionné là au verset 8. En toute chose, nous ne pouvons pas le faire sans la prière et sans l'aide de l'Esprit. Mais un jour, quand nous allons arriver à la fin de cette vie présente ou quand Christ reviendra, peu importe ce qui se passe en premier, nous allons atteindre cette félicité éternelle et nous serons pleins de pureté au-delà de tout ce que nous pouvons décrire en termes humains, dans l'endroit de la sainteté de Dieu, et nous allons rencontrer tous ceux qui ont été rachetés avant nous, et nous serons purifiés par Dieu à la mort, et nous vivrons dans cet amour éternel, parce que nous lui devons tant, et à présent, nous faisons tous nos efforts, chers amis, pour progresser jour après jour, pour prendre ces choses, la sanctification, au sérieux, pour voir toutes ces choses positives que Dieu requiert de notre part, de nous abstenir entièrement du péché et des choses mauvaises et impures. Et nous lui devons ces choses, nous devons faire ce progrès pour lui, parce qu'il a aimé nos âmes, il est venu, il a souffert, il est mort pour nous. Au reste, frères, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus, à qui nous devons tout, que comme vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu, vous le fassiez toujours plus. »